Chers frères et sœurs, je vais dire d'abord un petit mot pour vous, les enfants. En fait, je vous invite à retenir une phrase qui résume un peu tout l'évangile qu'on a entendu. C'était la dernière phrase, donc c'est celle que vous avez encore en tête, peut-être bien. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Je ne sais pas si vous regardez la nature, si vous êtes attentif aux arbres fruitiers, si vous êtes attentif à la façon dont il faut parfois certaines années les tailler plus que d'autres, dont certaines années ils donnent du fruit, puis d'autres moments ils donnent moins de fruits. Voilà, toutes ces différentes façons que la nature a de produire. Et du coup, je ne sais pas si vous avez déjà eu la joie de récolter les fruits de ces arbres dont vous avez pris soin, de voilà, revoir un petit peu comment, petit à petit, les fruits avaient pu grandir et puis être mûrs et être cueillis alors et être même mangés. La joie, du coup, eh bien, dans la vie, c'est pareil. Il y a la joie d'un homme de voir grandir le fruit de son travail. Et hier, nous avons fêté Saint-Joseph comme patron des travailleurs. Il y a la joie de contempler la croissance de tout ce qu'on a pu commencer à lancer dans la vie. Et puis, pour les parents, les adultes, la joie de voir leurs enfants s'engager droitement dans une vie d'adulte. Eh bien, Jésus nous dit que dans la foi aussi, il y a cette dimension-là. Il y a la joie du Père, il y a la joie, eh bien, du Jésus de voir que nous portons du fruit. Dieu nous a créés, il nous a donné la foi pour que nous portions du fruit. Et du coup, nous avons à réfléchir ensemble qu'est-ce que c'est que porter du fruit et comment porter du fruit. Alors, le premier moyen que nous dit Jésus, c'est d'être greffé sur lui-même. Est-ce que vous avez déjà fait des greffes, les enfants, ou pas ? Greffé, on prend une branche, on prend une deuxième branche, et il faut que les deux soient mises l'une sur l'autre pour que la sève de la branche du dessous puisse irriguer la sève, enfin la branche du dessus. Du coup, c'est assez subtil comme technique, et il faut arriver à ajuster écorce contre écorce pour qu'ainsi, eh bien, il y ait ce passage de sève. Mais donc, ce que la branche du dessus veut, c'est recevoir la sève d'en bas. Et Jésus nous dit, c'est pareil dans la foi. Nous sommes la sève, enfin la branche d'en haut, et nous avons à être greffés sur la branche d'en bas. Et du coup, ça veut dire que nous avons vraiment à sentir comment nous avons à nous ajuster à la branche originale, au cep qu'est Jésus, et pour pouvoir ainsi, eh bien, tirer la vie de Jésus. Sinon, eh bien, on devient une branche morte. Et parfois, on fait des greffes qui ne marchent pas. Parfois, on coupe l'arbre et puis du coup, on voit que la branche, elle est de côté. Et bien, finalement, ça fait une branche morte qui n'a plus de vie. Alors, dans le baptême, dans la communion, dans la prière personnelle, c'est un peu ça que vous venez chercher. Un moyen de pomper, aspirer, eh bien, cette vie que Dieu veut vous donner. Aujourd'hui, une des tentations, c'est d'être un peu hors sol. Et parfois, du coup, des personnes même disent qu'elles n'ont pas besoin, pour être croyantes, d'aller à la messe. Elles n'ont pas besoin de prier. Mais du coup, Jésus leur dit, en tout cas, qu'il manque quelque chose, finalement, dans cette conscience, que c'est Dieu d'abord qui est la source de la vie. Et qu'il faut aller puiser à la source de la vie pour pouvoir après, eh bien, nous-mêmes grandir, avoir des feuilles, avoir des fruits, avoir des fleurs qui soient belles. Voilà, le premier aspect, donc, c'est de sentir qu'on est vraiment greffé sur Jésus. Et donc, les enfants, essayez de vous dire quel moment vous sentez, eh bien, qu'il y a cette communion, cette greffe qui marche entre Jésus et vous. Et vraiment de vous dire, bah, ces moments-là, je ne vais pas les lâcher, parce que sinon, eh bien, je vais être comme une branche détachée de l'arbre originel. Le deuxième aspect que nous dit Jésus, c'est que, eh bien, lui, il est là pour tailler, couper tout ce qui n'est pas fécond. Vous savez peut-être, dans les arbres, vous avez pu remarquer qu'il y a des branches qui portent beaucoup de fruits, dans les pommiers ça se voit bien, et puis d'autres qui n'en portent pas du tout. Généralement, celles qui portent moins de fruits, celles qui ne portent pas de fruits, c'est celles qui tirent le plus de sève. Elles montent tout droit vers le ciel, mais elles n'ont pas de fruits, ça fait des grosses branches qui en fait sont complètement infécondes. Et Jésus dit, bah ça, on les coupe. C'est ce qu'on appelle des gourmands, et bah, du coup il faut tailler ça. Parce qu'en fait, ça gaspille la sève. Ça gaspille du coup, eh bien, la puissance de vie de l'arbre, et du coup, bah, ça use aussi l'arbre qui à la fin se fatigue et qui ne peut même plus, sur les branches qui sont fécondes, porter le fruit. Et bien, dans la vie avec Dieu, c'est pareil. La vie avec Jésus, c'est pareil. On peut gaspiller cette sève dont on a vu comment est-ce qu'il fallait la retirer. On peut après, du coup, eh bien, vivre notre vie d'une façon, en fait, à finalement se dire, bah oui, en effet, je reçois de la vie de Jésus, j'ai en moi une espèce de puissance qui est là présente, mais bon, en fait, j'en profite pas tant. Alors il faut réfléchir à qu'est-ce qui porte du fruit dans ma vie. Jésus, vous le savez, eh bien, il est venu pour le royaume des cieux. Et du coup, dans sa façon d'être, dans ce que nous pouvons voir de lui, eh bien, nous pouvons essayer de deviner qu'est-ce que c'est que porter du fruit selon lui. Et petit à petit, nous pouvons essayer eh bien, de plus attirer de la sève sur ces parties de notre vie qui portent du fruit selon le cœur de Dieu. Et puis se dire, bah, voilà, au contraire, les aspects qui sont moins selon Jésus, eh bien, je vais essayer de les couper. Enfin, c'est avec Jésus, je vais les couper. C'est-à-dire que je vais essayer de me débarrasser un petit peu de ces éléments de ma branche qui ne sont pas forcément féconds. Alors on peut ainsi interroger notre vie. Et vous pouvez vous dire, voilà, concrètement, qu'est-ce qui, eh bien, vraiment correspond à Jésus dans ce que j'ai pu entendre de son évangile, dans ce que j'ai pu sentir, eh bien, dans mon cœur, qui donne la joie quand je suis uni à lui. Parfois, il y a telle attitude de rejet des autres, il y a de la jalousie, de la colère, de la paresse, un manque de désir de servir, des trucs comme ça. Eh bien, tout ça, vous voyez, eh bien, c'est des aspects qui, finalement, peut-être sont des branches qui poussent en nous et qui ne sont pas vraiment féconds, parce qu'on va sentir que bah, quand on est en colère, en fait, on dit des choses qu'on ne voulait pas dire. Et donc, en fait, on porte du fruit qui est mauvais, qui va être amer dans notre bouche. Quand on est, au contraire, avec le désir de servir, eh ben, on va trouver la joie, finalement, à voir les autres aussi heureux et soulagés. Et donc, du coup, là, on sent qu'on a vu une branche qui a porté du fruit. Et vraiment, petit à petit, être attentif à ce que ça fait en nous, cette façon d'être à la suite de Jésus et comment on y arrive, en fait, pas à pas, avec de la patience et avec de la joie. Voilà. En tout cas, les enfants, voilà, prenez la parole de Jésus au sérieux et essayez de vous dire, bah voilà, ce que Jésus m'a dit là, je vais essayer de le vivre. Je vais voir quand est-ce que je suis en communion avec lui, quand est-ce que je tire ma sève de sa sève à lui, de sa vie. Et puis, essayez de dire merci à Jésus qui nous purifie. Et parfois, ça fait un peu mal quand on nous coupe quelque chose, ça fait du mal. Bah voilà, ça peut être parfois, voilà, sa purification, ça peut être un peu exigeant. Mais en tout cas, au moins, vous gaspillerez pas votre vie avec de l'inutile, malgré les dons de Dieu. Voilà. Pour les plus grands, je voulais simplement reprendre la première lecture du livre des Actes des Apôtres. On se dit que c'est un passage qui est un peu banal, entre guillemets, anodin, et en même temps, c'est intéressant que l'Église ait choisi, eh bien, de le prendre. Parce qu'il n'y a pas de miracle dans ce passage-là, il y a simplement une réalité, c'est l'intégration d'un nouveau membre dans la communauté chrétienne. Et on voit que ça n'est pas si facile. Avant, dans les premiers chapitres, on voit plutôt une façon un peu fluide dont Saint-Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, nous présente comment s'intègre la communauté. On voit qu'ils arrivent par masse, des fois il y a 3000, 5000 baptêmes dans une journée, enfin, c'est assez grandiose. Et puis on nous dit, bah, la communauté quand même, elle avait un seul cœur, une seule âme, elle partageait tout dans le cœur de Dieu. Et du coup, on voyait plutôt voilà, une certaine profusion de communion qui avait l'air assez évidente. Mais ici, ce n'est pas facile parce qu'apparaît Paul. Paul, vous le savez, c'est celui qui a commencé par persécuter les chrétiens. Donc en fait, les chrétiens qui voient arriver dans leur communauté celui qui a commencé par les persécuter, c'est un peu comme les Américains qui voient arriver un ancien service, enfin, agent secret de russe. On ne sait pas trop où est-ce qu'il se positionne en fait. Et donc, voilà, c'est plus difficile pour la communauté chrétienne de l'intégrer. Parce qu'ils se souviennent que saint Paul a été contre eux. Ils se souviennent qu'il était un persécuteur. Et du coup, chaque fois qu'il peut s'approcher, on peut imaginer cela, il y a un regard suspicieux qui jaillit. On s'écarte un petit peu de lui. On passe devant lui quand il essaye un peu de se greffer dans le groupe, quand il marche. On passe devant lui sans trop le regarder, voire même on accélère. Et du coup, ce pauvre Paul eh bien, se retrouve seul. Ce que nous dit pas le texte, c'est combien de temps ça a pu durer et combien de temps a dû tenir saint Paul dans ce désir de rejoindre la communauté avant que enfin l'un d'entre eux aille vers lui pour pouvoir le connaître. On ne sait pas combien de temps il a pu vivre de découragement, quel a été son désir de fuir peut-être et en même temps de rester attiré comme aimanté vers l'Église par laquelle il savait qu'il pourrait vivre du Christ. Heureusement, voilà qu'arrive Barnabé. On nous a dit au chapitre 4 des Actes des Apôtres eh bien, que Barnabé, ça voulait dire « fils de la consolation, homme du réconfort ». Et il ose du coup, lui, aller vers Paul pour lui donner cette consolation, pour lui donner ce réconfort dont il a besoin. Il va accueillir le récit de sa conversion. Il va lui donner sa confiance, car il reconnaît cette communion d'esprit, ce même esprit qui est à l'œuvre dans Paul comme en lui. Et il reconnaît ce même amour pour le Christ, son Sauveur. Alors, il va pouvoir l'introduire dans le groupe des apôtres. et il va essayer de faire ce lien. Il va lui montrer que la droiture de son désir et ainsi permettre que saint Paul puisse être reconnu comme un frère. Voilà, cela est passé par une relation personnelle, par ce souci d'un du groupe pour un autre qui arrive. Alors enfin, Paul vit cette communion fraternelle avec ceux qu'il a cherché à rejoindre. Enfin, il entre aussi dans cette logique missionnaire de l'Église. Déjà à Damas, il avait pu évangéliser à peine baptisé. Mais ici, il peut le faire avec cette dimension plus complète qui est que l'évangélisation intègre après les personnes dans le groupe. Il ose aller vers les Grecs, enfin les Juifs qui sont d'origine grecque, et donc comme ils parlent leur langue, il peut être facile pour lui de pouvoir discuter avec eux. Et du coup, après, il ose ensuite les intégrer dans cette communion de l'Église. Plus tard, eh bien, il va avoir des soucis parce que sa conversion, ça ne plaît pas beaucoup aux Juifs qui avant étaient avec lui pour persécuter les chrétiens. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce sont ses frères. Les chrétiens sont devenus ses frères qui l'accueillent et qui lui disent « Maintenant, il faut que nous t'aidions à partir d'ici pour que tu puisses avoir la vie. » Voilà, ce ne sont plus des disciples face à une personne qui veut être disciple. Ce sont des frères qui, ensemble, prennent souci de cet homme. Alors, il accompagne à Tarse, sa patrie d'origine, et puis c'est là-bas que Barnabé, plus tard, ira le chercher pour, avec lui, élaborer, construire l'église d'Antioche. Il y a ainsi, ce changement de situation. Saint Paul n'est plus cet étranger, cet ancien ennemi qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il porte. Il est ainsi devenu ce frère. Chers frères et sœurs, s'il n'y avait pas eu Barnabé, ainsi on le voit, certainement que l'histoire de l'Église aurait été bien différente. Si Paul n'avait pas pu intégrer cette Église qu'il désirait intégrer, ce groupe des disciples, eh bien il n'aurait pas pu après partir, entendre l'Esprit Saint qui l'amenait jusqu'à la conversion des Grecs et jusqu'à Rome même. Aujourd'hui encore, il faut se rendre compte qu'il n'est pas évident d'entrer dans l'Église et nous avons vraiment à en prendre conscience. Combien de personnes, déjà dans notre assemblée par exemple, ne connaissent pas plus que 3-4 personnes? Peut-être que voilà, nous pouvons essayer de prendre conscience de ça. Combien n'osent pas et pourtant désirent déployer des amitiés au sein de notre communauté? Il y a ceux qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'arriver. Et avec ces temps de confinement où on ne sait pas trop comment est-ce qu'on peut aller dire bonjour aux gens, eh bien, ils vivent cette solitude d'une façon rude. Et puis, il y a ceux aussi qui entrent sans être encore baptisés, sans vraiment connaître nos codes, et qui, du coup, se sentent un peu étrangers par rapport à nos mœurs, particulièrement liturgiques parfois. Et du coup, ils restent à l'écart. Il y a 2 semaines, je vous avais parlé de 2 catéchumènes qui étaient parmi notre assemblée, et je vous avais invité à aller les chercher. Bon, finalement, ils m'ont dit que personne ne les avait salués. Et pourtant, si c'était eux des pôles, si chacun de nous était, enfin comme chacun de nous l'est, des pierres essentielles à l'édifice, comme si on enlevait une pierre dans ses colonnes, on aurait du mal à tenir cette église debout. Eh bien, si Dieu nous invite à travers un développement de notre attention les uns aux autres, à travers une attention vraiment qui se déploie et qui cherche à mieux connaître eh bien, la bonté, la joie de l'autre, comment la grâce de l'Esprit-Saint a déjà touché son cœur, qu'ainsi nous puissions nous aider eh bien, à nous accueillir les uns les autres, à nous intégrer, nous réjouir de la grâce propre de chacun. Ainsi nous serons ensemble cette Église qui estime chaque membre comme un frère, et comme Barnabé, attentif à intégrer, accueillir, pour ainsi permettre à chacun de trouver sa place et construire ensemble l'œuvre de Dieu. Amen.